les suites scientifiques et politiques de l'épidémie de coronavirus. Intervention télévisée ce soir d'Emmanuel Macron à 20h. Pour en parler ce matin, deux invités avec Aurélien Taché, qui est député du Val-d'Oise, ex-membre de La République En Marche, et puis une scientifique, Dominique Costagliola. Elle est épidémiologiste et avec elle, des questions concernant les recherches sur les traitements, les médicaments anti-Covid, le vaccin possible et le rythme du déconfinement. Emmanuel Macron va en parler ce soir. Dominique Costagliola est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique Sorbonne Université et INSERM, spécialiste du VIH. Vous participez depuis janvier dernier au suivi de la pandémie de Covid-19, notamment en tant que membre du comité scientifique de REACTING, le consortium de l'INSERM qui coordonne la recherche française pendant les épidémies. Alors, Dominique Costagliola, on a appris hier que l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir la fourniture à l'Union européenne de 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Est-ce que ça veut dire qu'un vaccin opérationnel, c'est pour bientôt ?
Ben non, comme vous l'avez dit vous-même, c'est potentiel. Il va falloir attendre le résultat des essais cliniques qui seront conduits pour savoir si ce vaccin aura une certaine efficacité ou pas.
Et vous pensez qu'on aura un vaccin d'ici la fin de l'année ?
Alors, il y a de nombreuses pistes qui sont à l'étude, de nombreux essais qui sont prévus. Ce n'est pas parce qu'on a des essais de phase 1 ou même des essais qui passent en phase 2 ou en phase 3 qu'on a forcément un vaccin. Dans le domaine qui est le mien, que vous avez rappelé, l'infection à VIH, on a eu bien des fois des essais de phase 1 prometteurs et on n'a toujours pas de vaccin. Alors c'est plus facile pour les coronavirus. On a déjà su faire des vaccins contre les coronavirus animaux dans le passé. Donc on a de meilleurs espoirs malgré tout. Mais il est difficile de prédire absolument dans quel délai on obtiendra un vaccin. Ça n'est jamais arrivé qu'on ait un vaccin contre une maladie infectieuse en moins de 10 ans dans l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver cette fois-ci, mais ça montre quand même que la marche est très haute.
Vous avez écrit un tweet sur les épidémiologistes qui ne comprennent rien aux maladies infectieuses, avec un brin de malice. Et une maladie infectieuse comme le Covid est particulièrement compliquée à comprendre. C'est-à-dire que tous les porteurs ne sont pas transmetteurs, donc il y a aussi une composante génétique qui joue. Ça complique la situation.
Disons qu'on n'est pas encore complètement certain qu'il y a une composante génétique. C'est quelque chose qui est en train d'être regardé et c'est tout à fait possible qu'il y en ait une. Est-ce qu'elle est très importante ou pas ? Je crois que c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est surtout un virus qu'on ne connaissait pas. On a beaucoup raisonné en faisant des parallèles avec d'autres virus. Or, il a, son génie propre. Et donc, il faut se méfier de ces parallèles que l'on fait. Dans le passé, on a souvent vu que finalement, chaque virus se comportait à sa façon et qu'on ne pouvait pas déduire de ce qui se passait pour l'un pour dire qu'est-ce qui allait se passer pour l'autre.
Dominique Costagliola, où en sont les recherches sur un traitement, un médicament permettant de combattre, de neutraliser ce Covid-19 ?
Alors, il y a de très nombreux essais en cours de par le monde, quelques essais de très grande taille, comme l'essai anglais Recovery, l'essai de l'OMS Solidarity, dans lequel l'essai Discovery est partie prenante. Les données de l'essai Discovery en France sont intégrées aux données de Solidarity. Et puis, il y a beaucoup d'autres pistes qui sont poursuivies, au moins environ 80 approches différentes pour lesquelles il y a des études en cours. Je pense qu'on va commencer à partir de la fin de ce mois-ci et peut-être l'été à avoir des résultats. On a déjà eu des résultats pour Recovery, par exemple, sur l'hydroxychloroquine. Il y en a d'autres à venir sur d'autres approches, puisqu'ils ont arrêté l'inclusion dans certains pour certains des traitements qu'ils testaient. De la même façon, pour Solidarity, il va y avoir des résultats. Et puis d'autres
études. Mais quand vous dites des résultats, ça veut dire qu'on va être efficace, qu'on va pouvoir neutraliser ce virus ?
Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Disons que pour l'instant, les médicaments qui ont été testés, c'est des médicaments qui existaient et qu'on a repositionnés pour voir s'ils allaient marcher dans la maladie Covid-19.
Oui, mais vous contestez l'efficacité thérapeutique de la chloroquine a priori.
Oui, enfin je la conteste. C'est-à-dire il n'y a pas de données qui montreraient une efficacité quelconque. C'est pas tellement le fait qu'on veuille la contester ou pas, c'est que les données ne montrent pas d'efficacité. Alors dans toutes ces pistes qu'on a cherchées, pour l'instant il y a un seul médicament qui a montré une petite efficacité, qui est le remdesivir, mais il y a d'autres approches qui pourront montrer peut-être également une petite efficacité et on peut espérer pouvoir les combiner dans le futur. On n'aura pas des traitements directement développés pour combattre cette maladie avant quelques années, de la même façon qu'on n'a pas un vaccin tout de suite, parce qu'il faut conduire les recherches et faire les études derrière.
Et la priorité, mais, c'est de disposer d'un test sérologique ?
Bah, le test sérologique, maintenant, on en dispose.
Oui, mais...
Donc, ça permet d'étudier quels sont les gens qui ont été infectés. Mais je pense que pour contrôler l'épidémie, donc on a déjà des outils, parce qu'effectivement, on sait maintenant faire les tests, on sait que les gestes
il a pas
barrières
été, il,
sont
Il n'a pas
utiles.
Été simple à développer, ce test.
Oui. Bah, je ne suis pas sûre que... Ça a mis plus de temps que d'habitude, c'est juste qu'on était tous très impatients d'en avoir un. Et on veut toujours que ça aille plus vite que la musique, mais malgré tout, la science, il faut qu'elle se développe à son rythme pour avoir des choses fiables.
Dominique Costagliola, faut-il accélérer le déconfinement, puisque l'épidémie est sous contrôle, comme l'a dit Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique qui conseille Emmanuel Macron qui interviendra ce soir à la télévision?
Alors, l'épidémie est sous contrôle, mais elle est toujours là. Donc il faut bien réfléchir à quelles mesures on peut suspendre et comment on peut aller vers une vie plus normalisée. Donc il est probable, par exemple, que on peut réfléchir à comment simplifier le protocole dans les écoles et tout un tas de mesures. Mais il ne faut pas croire qu'on peut faire comme si c'était fini. Car ça n'est pas fini, le virus circule toujours, il y a toujours des clusters. Donc malgré tout, si on se remettait à faire exactement la même chose que ce qu'on faisait en mars, eh bien on aurait à nouveau probablement une vague. Donc il faut juste y aller prudemment, je pense, et effectivement quand même retourner vers une vie plus normale, en gardant en tête que les gestes barrières et le masque sont des outils très importants en attendant qu'on ait des moyens spécifiques pour lutter contre cette maladie.
Mais l'immunité grégaire en la matière, est-ce qu'elle est difficile à comprendre ? C'est-à-dire que à partir d'une certaine proportion de personnes infectées, on peut se dire ou pas que la population est protégée ?
Alors, les taux qu'on a décrits au début d'immunité grégaire à atteindre, 60 à 70%, c'est en supposant qu'il y a une transmission uniforme de la maladie. On a appris que, en fait, c'était sans doute pas ce qui s'était produit. Il y a sans doute, on sait maintenant que des réunions avec beaucoup de personnes dans des lieux confinés qui durent un peu longtemps, ça fait des événements de super contamination, et que ça, c'est probablement un élément clé. Donc, si ceci est exact, alors les taux d'immunité qu'il va falloir atteindre pour contrôler l'épidémie vont être plus faibles que ce qui a été décrit au départ. D'un autre côté, on sait que pour l'instant, les taux qui ont été observés dans les différentes populations sont plutôt plus faibles malgré tout que ces taux qu'il va falloir atteindre. Donc on est un peu entre les deux de ce point de vue-là.
Merci Dominique Costagliola d'avoir été en ligne avec nous ce matin, épidémiologiste, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, Sorbonne Université et INSERM. En ligne maintenant avec nous, Aurélien Taché, qui est député du Val-d'Oise, ex-membre de La République En Marche. Il a rejoint un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, Écologie, Solidarité, Démocratie. Bonjour.
Bonjour.
3 mois après avoir mis à l'arrêt le pays et ses réformes, pour cause de Covid-19, Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h à la télévision. Est-ce que, selon vous, il doit annoncer une accélération du déconfinement ou rester prudent ?
Je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse maintenant retourner vers une vie normale. Les Français ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts ces derniers mois et il y a besoin de retrouver finalement de la confiance, une vie plus normale. Et pour les restaurateurs, pour les parents d'élèves, il y a encore des règles extrêmement complexes. Oui, il faut que tout ça puisse évoluer.
Oui, mais vie normale, ça veut dire relâchement ?
Non, ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir rester très engagé sur le respect des gestes barrières, sur le port du masque, mais qu'on ne peut pas non plus faire comme si on ne voyait pas que le confinement risquait de véritablement plonger notre pays, enfin le prolongement du confinement risquait de plonger notre pays dans une crise sociale grave et qu'il va falloir d'ailleurs apporter des réponses fortes là-dessus. Il y a eu aussi du côté de nos concitoyens parfois l'idée que on ne leur faisait pas peut-être suffisamment confiance. Il faut restaurer cet esprit de confiance. Ils ont parfois eu, que ce soit les maires dans les territoires, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit tous ceux qui ont dû faire appliquer les règles, eu le sentiment que finalement on s'était pas assez appuyé sur leurs responsabilités. Et aujourd'hui, il faut retourner vers ça. Il faut retrouver cet esprit de confiance qui était d'ailleurs celui qui animait ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron en 2017, en restaurant la démocratie, le Parlement, en ayant plus de pouvoir donné à la société, au territoire, et en accélérant, oui, ce déconfinement, tout en respectant les gestes barrières. Les Français sont tout à fait capables de le faire et de le comprendre.
Aurélien Taché, pour relancer son action politique, quelles doivent être les priorités d'Emmanuel Macron ? Quelles mesures économiques souhaitez-vous entendre annoncer ce soir ?
Je souhaite effectivement qu'un certain nombre de mesures économiques soient annoncées, en particulier pour faire face encore une fois à la terrible crise sociale qui est devant nous. Mais ce n'est pas qu'une question de mesures économiques. Il faut vraiment pouvoir, j'ai dit à l'instant, retrouver cet esprit de confiance et donc changer de posture, être dans une logique véritablement d'écoute et de voir ce que les plus fragiles ont pu nous enseigner pendant cette crise. Les jeunes sont venus à l'aide de leurs aînés. Il faut pouvoir les protéger face à la crise qui arrive. Donc nous allons certainement devoir demander aux entreprises des engagements très très forts pour effectivement maintenir l'emploi, pour que celles qui ont été aidées ou seront aidées maintiennent ces emplois, ne reversent pas de dividendes. Elles prennent des engagements forts aussi en matière écologique, parce que cette relance économique, le risque c'est qu'elle arrive elle puisse aussi aboutir à une régression sur le plan écologique.
Et vous avez vu qu'il y a des revendications climatiques chez les jeunes. Il y a un sondage de l'Institut BVA pour Greenpeace qui vient de sortir, et où on voit qu'il y a une demande d'écologie.
Oui, et c'est peut-être au-delà des mesures de protection pour les Français les plus fragiles, au-delà de finalement renforcer la vie démocratique dans notre pays, la chose la plus importante que j'attends du président de la République ce soir, c'est effectivement de faire droit aux aspirations de cette jeunesse qui se mobilise. C'est la jeunesse qui a mis le combat climatique tout en haut de l'agenda politique. Donc la première réponse forte qu'on pourrait apporter, c'est effectivement de suivre ce que la Convention pour le climat, donc qui rendra ses conclusions dans quelques jours, dira. Voilà une belle manière de répondre aux aspirations de la jeunesse. C'est aussi la jeunesse qui est aujourd'hui dans la rue et pour l'égalité et pour la justice. Et donc on ne doit certainement pas faire la sourde oreille à ces revendications-là.
Aurélien
Taché,
aujourd'hui
un fléau avec les discriminations, et il faut pouvoir y apporter des réponses fortes aussi. Et enfin, il ne faut pas laisser cette jeunesse souffrir sur le plan social. Elle va être durement touchée par la crise qui arrive. Il faut par exemple étendre le RSA dès 18 ans, payer les stages dès le premier jour et avoir des demandes fortes aux entreprises pour qu'elles embauchent ces jeunes.
Est-ce que vous souhaitez un référendum sur les conclusions de cette convention citoyenne pour le climat ?
Je pense que la Convention citoyenne s'est exprimée, qu'il faut maintenant pouvoir donner suite à ces propositions. Si ça doit passer par un référendum, pourquoi pas, mais le plus important est effectivement de pouvoir donner droit à ces propositions-là. Mais un référendum pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant. J'ai parlé tout à l'heure, encore une fois, de redonner du pouvoir aux citoyens, à la société. Généralisons ces mécanismes de Convention citoyenne, donnons du pouvoir au territoire, et pourquoi pas donner la parole aux citoyens à travers un référendum. Je trouve que tout cela serait évidemment beaucoup plus intéressant par rapport à l'esprit de confiance, à la posture d'humilité que j'appelle de mes voeux, que les éventuelles démissions, réélections ou choses qu'on a pu entendre ici ou là ces dernières semaines.
Aurélien Taché, est-ce que Emmanuel Macron doit reprendre le chantier de la retraite à points ?
Je ne le crois pas. J'ai personnellement toujours l'idée que le régime universel en matière de retraite serait un bon régime, mais je ne crois pas que ce soit aujourd'hui ça la priorité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement, je l'ai dit à plusieurs reprises, des mesures fortes à prendre pour protéger les jeunes qui risquent d'être les premiers sacrifiés de cette crise, mais il y en a d'autres aussi pour nos aînés. On se rappelle du drame terrible dans les EHPAD. Il doit y avoir maintenant des mesures fortes qui soient prises pour mettre en place un vrai service public de la dépendance. Un premier pas a été fait dans ce sens à l'Assemblée nationale. Et je le salue pour créer une cinquième branche de la dépendance. Encore une fois, je crois que véritablement, il faut pour la société qui arrive mettre l'effort, mettre l'accent sur l'attention à l'autre, sur la protection, une forme d'empathie. Et je ne crois pas que cette réforme des retraites qui a été très contestée soit la bonne manière de retrouver finalement de l'apaisement.
Pour relancer son quinquennat, Emmanuel Macron doit-il changer de Premier ministre, Aurélien Taché?
Écoutez, moi, je vous le dis tel que je le pense, le fait de savoir si Édouard Philippe ou non reste à Matignon, c'est pas ça qui va m'intéresser le plus, c'est de savoir si oui ou non les grands engagements qui pourraient être pris pour avoir une politique qui soit beaucoup plus juste sur le plan social et environnemental, pour avoir une politique qui fasse beaucoup plus de droits finalement aux institutions démocratiques et à la nécessité de les régénérer sera conduite ou non. Ensuite, ce sera au Premier ministre de voir si cette priorité absolue donnée aux jeunes, à la lutte contre les discriminations, au combat pour le climat, correspond ou non à ce qu'il imagine être les bonnes orientations pour la France.
Aurélien Taché, qui soutenez-vous ? Les policiers qui manifestaient hier soir à Paris, place de l'Étoile, qui en ont assez qu'on les traite de racistes et de violents, ou les manifestants antiracistes rassemblés par milliers hier à Paris et dans de nombreuses villes?
Je pense que ce serait une terrible erreur que de devoir choisir. Moi, je soutiens effectivement tous ceux qui se battent pour la justice, pour l'égalité. Ils sont très très nombreux dans la police, parce que quand on s'engage dans la police, c'est pour servir l'État, c'est pour protéger les Français. Mais ils étaient aussi très nombreux parmi les jeunes qui étaient dans la rue. Il ne faut certainement pas prendre ce mouvement à la légère. Cette jeunesse, finalement, elle a l'audace que n'ont plus ses aînés. Elle a l'audace de nous rappeler que, comme en matière environnementale ou finalement ma génération, les précédentes, ont laissé par leur inaction une dette terrible, eh bien sur la promesse républicaine, c'est la même chose. Cette promesse républicaine, aujourd'hui, elle n'a pas été tenue. C'est ce que nous rappellent les jeunes, et il faut pouvoir répondre à ça, sans pour autant vilipender notre police, qui évidemment fait souvent du mieux avec les moyens qu'elle a. Il faut entendre ça, mais il y a certainement quand même des choses que l'on pourrait réformer.
Merci.
Pour apaiser ce rapport entre la police et la population. Des choses autour des contrôles d'identité, des choses aussi autour effectivement des techniques d'interpellation. Et nous d'ailleurs, avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous proposerons un travail de ce type-là au sein de l'Assemblée nationale, car le débat ne doit pas se tenir que dans la rue, il doit aussi entrer dans nos institutions à travers un événement le 25 juin.
Merci. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, était l'invité de France Inter ce matin.